Vous écoutez « On lit pour vous ».
Un défi pour les années à venir, un texte de Mégane Foy, paru le 23 décembre 2025 dans La Presse. Lorsqu'on tape les mots « intelligence artificielle » et « chat GPT » dans les banques de décisions judiciaires du Québec, les résultats se multiplient. Après une première sanction en la matière, les tribunaux québécois ne se gênent plus pour réprimander les citoyens qui utilisent l'intelligence artificielle, IA, de manière fautive. Ce qu'il faut savoir. En octobre 2025, la Cour supérieure du Québec a imposé une amende de 5 000 $ à un individu sans avocat qui a cité de faux éléments de jurisprudence en utilisant ChatGPT pour assurer sa défense. Depuis, les causes impliquant l'usage de l'IA sont en hausse, surtout chez les personnes qui se représentent seules et qui ont peu de ressources. Le Barreau du Québec a publié un guide pratique pour une utilisation responsable de l'IA au tribunal. À l'instar de bien d'autres domaines, l'IA s'est invitée dans le monde juridique au Québec. Pour la première fois, la Cour supérieure du Québec a d'ailleurs sanctionné un individu pour son utilisation de l'IA le 1er octobre 2025. L'homme de 74 ans, qui n'était pas représenté par un avocat, a cité dans sa défense des passages de jurisprudence qui n'existent pas. Il a été condamné à verser une somme de 5 000 $ à la partie adverse. Cette première décision, en la matière, comme l'avaient prédit les spécialistes, a ouvert la voie au Québec. Depuis, plusieurs autres décisions rendues font mention d'un usage erroné des outils d'IA dans la province, et ce, dans toutes sortes de causes, a constaté La Presse. « Je pense que nous allons en trouver tous les mois », réagit Maître Gaspard Petit, avocat spécialisé en propriété intellectuelle au cabinet Lavery à Montréal, en entrevue avec La Presse. On voit que c'est en accélération depuis le printemps 2025 et ça restera un défi pour les années à venir, ajoute-t-il. Chaque fois, presque la même histoire se répète. Un individu, sans avocat, présente un document truffé de fausses citations à la Cour. Les amendes et avertissements sont justifiés par la perte de temps pour la partie adverse qui a dû contre-vérifier chaque passage. À Gatineau, quelques semaines après la première décision en la matière, dans une cause de litige, un individu s'est vu imposer une amende de 750 $ pour cette raison, en Cour supérieure du Québec. À Montréal, à la fin d'octobre, dans une affaire de divorce, l'une des parties a reçu un avertissement pour son usage de l'IA. Sur certains points cruciaux à sa demande, les articles cités disaient même le contraire de ce qu'elle prétendait, peut-on lire dans cette dernière décision. Sanction. Verser une compensation à la partie adverse, fait-il vraiment partie de la solution? Selon Maître Petit, sans aucun doute. Un peu comme les conducteurs qui roulent trop vite et qui reçoivent une contravention pour les décourager de recommencer et surtout dissuader les autres de les imiter. Par contre, ça va être la même erreur, affirme-t-il, répétée chaque fois par des personnes différentes qui vont se faire donner un rappel à l'ordre par un juge. Pour moi, c'est un problème beaucoup plus profond, beaucoup plus en amont. Pour l'instant, Maître Petit explique que la contre-vérification des documents ne nécessite pas de ressources supplémentaires dans les cabinets, puisque les avocats consacrent déjà une partie de leur temps à la recherche. Par contre, Vous comprenez que vérifier quelque chose qui n'existe pas, ce n'est pas aussi amusant que l'inverse, ajoute-t-il, même si les contrevenants utilisent l'intelligence artificielle de bonne foi. Utilisation responsable. Le 1er décembre 2025, le Barreau du Québec a publié un guide pratique pour une utilisation responsable de l'IA, spécialement destiné aux personnes qui se représentent seules devant le tribunal. Ce guide était en préparation depuis un moment, a assuré le barreau à la presse. Le phénomène de la représentation seule n'est pas en voie de disparition, bien au contraire, pour toutes sortes de raisons, notamment les coûts d'avocat. C'est sûr que c'était le souci du barreau, a souligné Martine Meilleur, porte-parole du Barreau du Québec. Déjà, au tournant de 2024, le juge en chef de la Cour du Québec avait levé un drapeau rouge concernant le rythme fulgurant des développements en matière d'IA. Jusqu'à présent, aucun avocat québécois n'a été sanctionné pour un usage fautif de l'IA. C'était un défi pour les années à venir, un texte de Mégane Foy, paru le 23 décembre 2025 dans la presse.
Bonne nouvelle, c'est une fille. Un texte d'Olivia Lévy, paru le 19 octobre 2025 dans la presse. De nombreux parents souhaitent désormais avoir une fille. Pendant des siècles, la préférence était marquée pour les garçons. Pourquoi cette tendance change-t-elle? Les filles sont-elles plus faciles à élever? Le magazine The Economist titrait le 5 juin 2025 « Phew, it's a girl », un article qui démontre que la préférence des parents pour les filles émerge dans de nombreux pays. Le magazine britannique révèle que la pratique consistant à avorter lorsque l'on sait que le bébé sera une fille simplement parce qu'il s'agit d'une fille est maintenant beaucoup moins courante, notamment en Chine, et qu'aujourd'hui, les parents ont même tendance à les privilégier. Parmi les bébés nés en 2000 à l'échelle mondiale, 1,6 million de filles manquaient à l'appel par rapport au nombre attendu entre les sexes à la naissance. Cette année, ce chiffre devrait être de 200 000 et il continue de baisser selon des économistes. Pourquoi cette préférence? Plusieurs hypothèses sont avancées. Les filles sont plus calmes et plus faciles à élever. Elles sont meilleures à l'école, elles prennent soin des parents vieillissants. C'est une idée préconçue de dire que les filles sont plus faciles à élever que les garçons, selon la psychologue Laurie Zéphir. Notre société a tellement valorisé l'image de la petite fille gentille, calme, qui ne bouge pas et qui ne cause pas trop de problèmes, mais la réalité, c'est que les filles peuvent être tout aussi énergiques et sportives que les garçons. Laurie Zéphir rappelle que chaque enfant vient avec son tempérament et son lot de défis, quel que soit son sexe. La psychologue est consciente que les stéréotypes perdurent, car elle voit dans son bureau de future mère qui s'inquiète. Elle pense qu'élever un garçon, ce sera plus difficile et synonyme de problème de comportement, qu'il sera plus agité qu'une fille. Il faut éviter de répandre ce message qui généralise un individu à son sexe. Les projections qu'on a sur les petites filles ne sont pas les mêmes que celles qu'on a pour les petits garçons. On associe, par exemple, l'agressivité aux garçons, le décrochage scolaire, le sport, le hockey, le soccer, alors qu'on a l'image d'une petite fille avec une jolie robe et des couettes, et on se dit qu'elle sera douce, obéissante et potentiellement plus attentionnée et plus présente pour les parents, analyse Laurence Charton, professeure au Centre Urbanisation, Culture et Société à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS à Montréal. Cette dernière souligne aussi que la société a évolué. Les femmes font des études. Elles s'assument seules et ont accès aux mêmes emplois que les hommes. Il y a désormais une certaine égalité entre les hommes et les femmes, et l'intérêt marqué pour les garçons s'estompe. Les lois ont effacé certaines inégalités, évoque Laurence Charton, professeure au Centre Urbanisation, Culture et Société à l'Institut national de la recherche scientifique. Par exemple, les femmes peuvent désormais transmettre leur nom de famille et l'autorité parentale n'est plus réservée aux hommes comme avant. Ce sont des éléments sociaux qui ont contribué à l'égalité des sexes et l'intérêt d'avoir un garçon est moindre par rapport aux bénéfices d'autrefois. Laurence Charton pense que cette préférence pour les filles apportera un certain rééquilibrage dans certaines sociétés. On sait qu'en Chine, le fait d'avoir longtemps préféré les garçons, il y a eu des avortements sélectifs, a créé un vrai déséquilibre démographique. On souhaite avoir des filles aujourd'hui parce qu'il y a un déséquilibre très fort. Vouloir tout choisir. Cathy Fengsk, qui anime un balado, Burnt Pancakes, sur la maternité, est mère de 3 garçons. Elle avoue avoir vécu une immense déception lorsqu'elle a su qu'elle attendait un 2e garçon. J'ai vécu une période de deuil. J'étais vraiment triste parce que je m'étais toujours imaginé avec une fille et je me suis dit que mon rêve ne se réaliserait jamais. Pas de robe de princesse. Pas de robe de mariée à magasiner. Je suis très près de ma mère et je me disais que plus tard, je n'aurai pas la même complicité avec mes fils, car on dit souvent qu'ils partent loin de leur famille, contrairement aux filles, confie-t-elle en entrevue. Julie Peters partage cet avis. Elle a 2 fils, vit à Edmonton, et lorsqu'elle a découvert qu'elle attendait un garçon, elle s'est mise à pleurer. J'étais surprise de réagir comme ça. Je suis féministe, alors j'avais imaginé élever une fille et je me suis dit que je ne saurais pas élever un garçon. Mon mari voulait une fille, il voulait vivre le « daddy's girl », la chouchoute de son père. Elle se rend compte finalement que les futurs parents se projettent beaucoup trop et qu'eux-mêmes ne savent pas quel type de parents ils deviendront. La psychologue Laurie Zéphir voit des mamans qui sont enceintes de leur 2e garçon et qui sont déçues. Elle pense qu'il faut accepter la réalité et qu'on ne choisit pas le sexe de notre enfant malgré les conseils de grand-mère. On doit déconstruire la vision selon laquelle mon enfant va correspondre à tous les stéréotypes liés au sexe. On voit dans les familles, par exemple, qu'on donnera comme jouet une poupée pour les filles et une voiture pour les garçons. Il faut se laisser la chance de découvrir notre enfant au-delà de son sexe. La sociodémographe Laurence Charton estime qu'on vit dans une société de plus en plus individualiste et que beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils veulent quelque chose, ils peuvent l'avoir, même choisir le sexe de leur enfant. On veut tout maîtriser tout le temps, et nos désirs doivent non seulement se réaliser, mais là, tout de suite, ou presque. C'était « Bonne nouvelle, c'est une fille », un texte d'Olivia Lévy, paru le 19 octobre 2025 dans La Presse.
Surconsommation d'eau, la planète est en faillite, avertissent les Nations Unies. Un texte d'Annie Labrecque, paru le 28 janvier 2026 dans le magazine Québec Science. L'humanité consomme l'eau avec un tel excès que la planète fait aujourd'hui face à une faillite mondiale de l'eau, selon un rapport des Nations Unies. Le Canada n'est pas à l'abri. Publié par l'Institut de l'Université des Nations Unies pour l'eau, l'Environnement et la Santé, UNU-INWEH, le rapport paru le 20 janvier 2025 dresse un portrait sombre. En raison de décennies de surexploitation, nous avons dépassé la capacité naturelle de renouvellement des ressources en eau. Parmi les causes de cette crise figure notamment la destruction de vastes zones humides, la fonte accélérée des glaciers, essentielle à l'alimentation des cours d'eau, et l'agriculture qui accapare 70 % des réserves mondiales en eau douce. Pourquoi le mot « faillite » Le rapport de l'UNU Inoue parle de faillite plutôt que de crise. La crise évoque un choc temporaire ou une situation potentiellement réversible, alors que la faillite renvoie à un point de non-retour. Il ne s'agit donc pas d'une simple pénurie d'eau, mais d'une situation exceptionnelle qui entraîne des dommages irréparables. Emprunté au vocabulaire financier, le terme illustre le fait que la planète vit bien au-delà de ses moyens hydriques. La faillite de l'eau se manifeste de différentes manières selon les régions. Réservoirs vides, villes proches du jour zéro, pénurie majeure d'eau, où les robinets risquent de se tarir, désertification accrue, lacs et rivières qui rétrécissent ou s'assèchent, tempêtes de sable et de poussière, incendies de forêt, énumère en entrevue le scientifique Kaveh Madani, joint à son bureau de Toronto. Il est l'auteur principal du rapport et directeur de l'UNU Inoue. Dans certains cas, ajoute-t-il, on peut même observer des affaissements de terrain ou des gouffres se créer quand les sols vidés de leur eau perdent de leur stabilité. Originaire d'Iran, où plusieurs villes subissent une sécheresse sévère depuis 6 ans, Kaveh Madani sait que les effets de la faillite de l'eau peuvent être permanents, voire irréversibles. Ce n'est pas seulement le cas en Iran. Dans certaines régions du monde, les dommages causés aux écosystèmes sont déjà définitifs. Lorsque des zones humides s'assèchent, elles sont extrêmement difficiles à restaurer et la disparition d'espèces qui y vivent est souvent permanente, souligne le rapport. Nous pouvons éviter d'aggraver les dégâts, mais nous devons aussi nous adapter à une nouvelle réalité marquée par des ressources en eau plus limitées et la perte irréversible de certains écosystèmes, prévient Kaveh Madani, chercheur en génie civil et en environnement. En chiffres. D'après le rapport des Nations Unies, environ 3 personnes sur 4 vivent dans un pays touché par l'insécurité hydrique. À l'échelle planétaire, 2,2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une eau potable sûre. 3,5 milliards sont privés d'installations sanitaires adéquates et près de 4 milliards subissent une grave pénurie d'eau au moins 1 mois par année. Et au Canada? Le manque criant d'eau est observé sur tous les continents
et n'épargne aucun pays, riche ou pauvre. Même si le Canada possède à lui seul environ 20 % des ressources mondiales en eau douce, il n'est pas à l'abri de la pénurie. Plusieurs drapeaux rouges se sont levés ces dernières années. On l'a vu avec la multiplication des sécheresses sévères, notamment en Saskatchewan en 2021, la baisse du niveau des Grands Lacs, avec un creux record en 2022, et les pénuries d'eau potable dans plusieurs municipalités québécoises. La richesse naturelle du Canada nous rend plus résilients, mais, comme dans le domaine financier, même les plus riches peuvent faire faillite. La question est de savoir si nous pourrons préserver cet héritage pour les générations futures, souligne Kaveh Madani. Quoi faire? Devant cette faillite hybride mondiale, le scientifique estime qu'il est urgent de changer en profondeur notre gestion de l'eau, mais aussi de repenser nos habitudes de consommation. Par exemple, est-ce vraiment pertinent de cultiver du riz, une plante qui a besoin d'énormément d'eau, 2500 litres d'eau pour 1 kilo de riz, en Inde et au Pakistan, qui souffrent déjà de sécheresse? Ou d'installer des centres de données qui consomment de grandes quantités d'eau dans des milieux fragiles? Selon Kaveh Madani, il faut également rendre les économies moins vulnérables et dépendantes de l'eau. La transition est plus facile pour les pays du Nord que pour ceux du Sud, où réduire l'accès à l'eau pour l'agriculture est synonyme de pénuries alimentaires, de pertes d'emplois, de migrations forcées, de tensions sociales et d'enjeux de sécurité nationale. Les gouvernements doivent soutenir les agriculteurs et leur proposer des alternatives pour assurer leurs moyens de subsistance, insiste Kaveh Madani. Investir dans la protection et la gestion de l'eau, cela bénéficie aussi à la lutte contre les changements climatiques, la perte de biodiversité et la désertification. Les décideurs doivent reconnaître que nous faisons face à un échec collectif et que repousser cette prise de conscience ne fera qu'aggraver notre dette envers la nature. Une dette que la nature, contrairement au système financier, pourrait ne jamais effacer, conclut-il. C'était « Surconsommation d'eau, la planète est en faillite », avertissent les Nations Unies. Un texte d'Annie Labrec, paru le 28 janvier 2026 dans le magazine Québec Science.
Le mystère de la calvitie masculine. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 janvier 2026 dans la presse. Guy Sirois, un lecteur, demande « Pourquoi les hommes perdent-ils d'abord leurs cheveux au sommet de la tête? » C'est un mystère, mais des chercheurs ont proposé des hypothèses. Notre hypothèse est que la perte de cheveux selon un pattern masculin, ou MPHL, sur les tempes et le sommet de la tête, est une forme de vieillissement accéléré local, indique Claire Higgins, biologiste au Collège impérial de Londres, qui a publié l'une des rares études sur le sujet, en 2023, dans la revue Experimental Dermatology. Madame Higgins a examiné plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi les hommes ne perdent pas leurs cheveux de la même manière que les femmes, notamment l'exposition à des hormones différentes dans l'utérus de leur mère. Elle avance qu'il pourrait y avoir un lien entre la MPHL et la barbe, ainsi qu'avec la pilosité plus abondante sur le corps des hommes. L'étude évoque aussi l'influence possible du cycle de croissance des cheveux qui commence dès l'enfance. Il pousse pendant quelques années pendant la phase anagène et pendant la phase catagène qui dure quelques semaines, il se détache du follicule. Ce cycle dure plus de 3 ans chez l'homme et 5 ans chez la femme. Lorsque la calvitie s'installe, la durée de la phase anagène diminue graduellement, puis devient inexistante. Ce changement est plus rapide chez l'homme que chez la femme, pour une raison inconnue. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de données expérimentales pour vérifier ces hypothèses, dit Mme Higgins. Follicule. Antonella Tosti, dermatologue à l'Université de Floride, qui est l'une des sommités dans l'étude de la calvitie, confirme que la recherche sur les causes de la MPHL en est à ses balbutiements, avec seulement quelques études, outre celle de Claire Higgins. Il y a des différences entre les follicules du sommet du crâne et des tempes et ceux qui sont ailleurs sur le cuir chevelu et sur le corps, a constaté Mme Tosti. Ces différences dans les follicules touchent les récepteurs et le métabolisme des androgènes, ainsi que les réactions à l'inflammation et à l'hypoxie, soit le manque d'oxygène transmis par le sang. Les follicules sont les endroits où poussent les cheveux. En gros, les composés de la sueur favorisent la croissance de champignons qui créent des molécules inflammatoires endommageant les follicules. L'une des rares études concrètes sur le sujet a eu lieu dans les années 1960, selon le dermatologue new-yorkais Robert Finney, qui a présenté les avancées des traitements contre la MPHL au congrès universitaire Hair Health Summit en août dernier à Chicago. L'étude portait sur 21 jeunes adultes qui avaient été castrés. Ceux qui n'avaient pas de MPHL au moment de la castration n'ont pas eu de calvitie par la suite, indique le chercheur. Cela montre l'importance des androgènes, selon lui, mais ne nous permet pas de déterminer comment traiter la MPHL ou pourquoi elle est différente de la perte des cheveux chez les femmes. Pour le moment, nous sommes dans la conjecture, mais j'ai bon espoir qu'un jour on arrive à comprendre la MPHL et à la traiter, dit le docteur Finney. En savoir plus. Source: Dermatologic Surgery. 16%, proportion des hommes américains de 18 à 29 ans qui ont une calvitie modérée à sévère. 53%, proportion des hommes américains de 40 à 49 ans qui ont une calvitie modérée à sévère. C'était « Le mystère de la calvitie masculine », un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 janvier 2026 dans La Presse.